Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
C'est une journée comme les autres. Elle rentre toute seule du collège, elle a son badge, elle a tout. Hein. Sauf que là, il y a cette fille qui passe devant, qui rentre. Il y a ma fille qui passe derrière. Elle est rentrée à 15h27. Puis c'est la dernière fois qu'on la voit. Et puis après, il s'est passé ce qui s'est passé. On a retrouvé ma fille à 23h dans une malle en plastique. Et une fois que tout bascule, c'est une horreur.
Bonjour, c'est un crime tellement gratuit et abominable qu'il semble porter à lui tout seul tous les ingrédients d'un acte de démence. Sauf que pas un seul des psychiatres qui se sont succédés pour examiner Dabia Benkired, 26 ans aujourd'hui, n'ont noté chez elle de signes de folie. Une après-midi de l'automne 2022, c'est cette jeune femme qui a entraîné dans un piège la petite Lola Davier, 12 ans. Elle rentrait de son collège. Elle lui a fait subir les pires tourments, puis lui a donné la mort. Un crime sans raison précise, si ce n'est la volonté de faire le mal. À l'époque, la mort de Lola va révulser la France entière. L'enquête va alors découvrir le visage d'une meurtrière au parcours erratique, algérienne sans papier et sans domicile fixe, interdite de séjour, qui peu à peu glissait vers les marges de la société. 2 ans d'enquête ont-ils éclairé cette tragédie ? Sait-on précisément aujourd'hui comment et surtout pourquoi la collégienne a perdu la vie ? Y aura-t-il un procès ? Question posée aujourd'hui à nos invités.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
Dans l'heure du crime, aujourd'hui, la disparition et le meurtre de la petite Lola, 12 ans, à l'automne 2022, dans le 19e arrondissement de Paris. Au fil des heures, un scénario des plus horribles va se dessiner. La suspecte numéro 1 est une femme dont on ne sait rien et qu'il va falloir retrouver. Vendredi 14 octobre 2022, autour de 15h20, Johan Davier, gardien de l'immeuble au 119 de la rue Manin, non loin du parc des Buttes-Chaumont, est surpris de ne pas voir sa fille rentrer. Delphine Davier, la maman qui travaille également comme gardienne dans le quartier, ne l'a pas vue non plus. À midi, Lola, 12 ans, est passée à l'appartement pour déjeuner avec ses parents, puis est retournée au collège Georges Brassens, à 300 mètres à peine, juste derrière l'immeuble. Les parents filent au collège. On leur assure que Lola est sortie après le dernier cours. À 15h pile, aucune trace d'elle dans ce quartier calme, bien fréquenté. Johan et Delphine Davier font le tour du pâté de maison, interpellent des passants, des commerçants, appellent les hôpitaux. En vain. Vers 17h, le commissariat est alerté. Johan Davier visionne alors les images de vidéosurveillance à l'entrée de l'immeuble. Il a la surprise de voir sa fille dans le hall. Celle-ci n'est pas seule. Une femme brune d'une vingtaine d'années l'accompagne. La dame lui fait un geste comme si elle lui disait de venir. Lola n'avait pas l'air rassurée du tout. On comprenait que ce n'était pas normal ce qui était en train de se passer, indique aux Parisiens une résidente qui a vu les images. Impossible alors de savoir qui est cette femme brune. Vendredi, vers 20h, les policiers recueillent le témoignage d'un jeune habitant du quartier. Vers 17h, dit-il, une femme l'a abordé, rue Manin, à hauteur du bureau de poste, pour qu'il l'aide à transporter une valise, mais aussi une très lourde caisse en plastique munie de roulettes. Selon le témoin, la malle dégageait une forte odeur de Javel. Elle était recouverte d'une couverture avec une tache rougeâtre qui pouvait être du sang. Il y avait quelque chose de compact à l'intérieur. La femme lui a dit que c'était un rein et a fait allusion à un trafic d'organes. Le témoin a alors pensé qu'il s'agissait d'une personne dérangée. Il est parti. La femme a été ensuite vue à une centaine de mètres de l'immeuble, à la hauteur du bar tabac Le Rallye. Elle a arrêté un camion pour l'aider à transporter ses affaires, mais le chauffeur a refusé. On l'a vue ensuite monter dans une Dacia Logie grise, un chauffeur VTC appelé par la jeune femme. Vendredi 23h30, 8 heures après la disparition, un SDF retrouve une malle en plastique posée dans l'une des cours intérieures au 119 rue Manin. Elle n'y était pas 2 heures auparavant. À l'intérieur, le corps de Lola Davier, ses poignets, ses chevilles sont entravés. Le visage est entièrement recouvert de rubans adhésifs. Les chiffres 1 et 0 sont inscrits sous ses pieds. Le légiste indique que Lola est morte asphyxiée. Elle a reçu des coups de couteau au visage, au cou et dans le dos après la mort. Samedi, 2h du matin, la brigade criminelle identifie le chauffeur VTC qui a transporté la suspecte numéro 1 et ses bagages. Interpellé à 6h du matin, Rachid N explique être un ami de longue date de cette femme, Dabia Benkired, 24 ans. Elle n'a pas vraiment de domicile. La veille au soir, elle est passée chez lui. Elle a pris une douche. Elle a laissé sa robe dans la machine. Il lui a prêté un jogging. Vers 22h30, elle a voulu retourner à l'immeuble de la rue Manin avec ses bagages, là où vit sa sœur. Il a refusé de l'accompagner, a appelé un autre VTC pour la conduire. Quelques heures plus tard, Dabia Benkired est interpellée dans une résidence de Bois-Colombes qui a toute l'allure d'un squat et où elle a passé la nuit. Enquête donc très rapide pour retrouver la suspecte numéro 1, mais enquête qui ne fait que commencer. Il va falloir maintenant reconstituer le scénario de ce crime hallucinant qui dépasse l'entendement et interroger, bien sûr, Dabia Benkired, écouter ses explications, savoir déjà si cette femme a toute sa tête, car au regard des premiers témoignages, on peut évidemment en douter. Il nous faut revenir là tout de suite aux premières heures de la disparition. Bonjour Timothée Boutry.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste police justice au journal Le Parisien et vous connaissez bien cette affaire puisque vous l'avez suivie évidemment pour Le Parisien et que vous continuez évidemment à la suivre. C'est un dossier qui n'est pas clos à l'heure où nous parlons. Il n'y a pas encore eu par exemple de procès. On va tout de suite percevoir Timothée Boutry qu'il y a quelque chose de très grave qui s'est passé parce que ce quartier il est très calme. Et cette petite fille, elle n'a que 12 ans, elle s'évapore comme ça, très rapidement.
Bah oui, vous l'avez dit, elle est allée au collège cet après-midi-là, elle a déjeuné avec ses parents, sa famille, elle avait qu'une heure de cours, elle devait rentrer, elle est partie à 14h, devait revenir à 15h. Voilà, elle a 12 ans, effectivement, elle est collégienne, mais enfin, c'est une enfant, et une enfant qui disparaît, c'est par nature inquiétant. De fait, voilà, surtout sur le trajet du collège, il y a des copines, il y a du monde, enfin, c'est pas normal, donc tout de suite, c'est pris très au sérieux.
Il y a quelque chose d'étonnant, ce sont ces images de vidéosurveillance, alors là, c'est un indice très important pour les policiers parce que tout de suite on a une idée de ce qui a peut-être pu se passer.
Bah oui, essentiel. En plus, alors vous l'avez dit, c'est le père de Lola qui lui-même va visionner ces images. Comme il est gardien de la résidence, c'est lui qui va faire finalement la découverte la plus importante pour lancer cette enquête. Et effectivement, on a vite une hypothèse assez crapuleuse qui se dégage, puisque elle est pas en train de se promener au parc des Buttes-Chaumont qui est tout proche. Elle est pas chez une copine où elle aurait pas prévenu ses parents. Enfin, ce qu'on peut aussi imaginer pour des adolescents. Là, on voit très clairement qu'elle était censée revenir chez elle, enfin en tout cas elle était dans le hall de l'immeuble où elle habite avec sa famille, avec quelqu'un d'inconnu. Voilà, donc on sait dès le départ qu'on est sur une piste évidemment sérieuse et très inquiétante.
Ouais, et d'autant plus inquiétante que cette femme, on la voit dans la rue. Bonjour Cindy Hubert.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous dans le studio de l'heure du crime. On vous connaît bien à RTL puisque vous êtes la voix de la justice et vous faites traiter aussi beaucoup de dossiers police-justice pour RTL, pour le service qui porte ce nom d'ailleurs. Police-justice. Cindy Hubert. Alors, il y a donc cette femme, on la croise dans la rue en fin d'après-midi. Elle tient des propos surprenants, incohérents. Elle a une attitude un petit peu déroutante. Elle parle de trafic d'organes, c'est ça ?
En fait, cette femme, elle traîne deux valises et une grosse malle en plastique noir. Et elle va alpaguer des passants. Un premier, elle lui demande de l'aide avec ses valises. Puis un deuxième, qu'elle traîne jusqu'au bar tabac qui est au coin de la rue. Et le passant s'inquiète de ce qu'il y a à l'intérieur de cette malle. Elle lui dit de ne pas regarder. Et puis, elle finit par lui dire qu'il y a un rein à l'intérieur, ce qui lui fait penser à un trafic d'organes. Il prend peur. Elle finit par alpaguer un ferrailleur qui passe là, qui lui aussi prend peur et la prend pour une folle. Et c'est à ce moment-là qu'elle va demander de l'aide à un ami.
C'est ça, l'aide à un ami, c'est le fameux VTC. Alors encore un mot, Cindy Hubert, la brigade criminelle, elle va très vite. Hein. Ils bossent vraiment très vite sur ce coup-là, parce que dans la nuit, ils savent qui est cette voiture qui est arrivée. Ils ont eu un peu de chance, c'est vrai que les témoignages sont précis, mais quand même, ça va très vite.
En fait, la première partie, c'est elle fait appel à un ami. Alors, en fait, c'est plus une connaissance de bar avec qui elle a travaillé dans un café. Elle va aller avec lui d'abord à Asnières. Et puis, elle a envie de revenir sur les lieux, elle a envie de revenir dans le 19e, mais lui, il n'a pas envie. Et c'est lui qui va appeler un deuxième VTC, et c'est grâce à la compagnie qu'on va pouvoir la remonter très vite.
C'est ça, on la remonte très vite, mais ça va très vite dans la nuit. On interpelle au matin cette femme, et puis il y a la découverte du corps, Timothée Boutry. Et là, c'est effrayant parce que il y a plein de points d'interrogation qui sont posés tout de suite. On va même se demander si c'est pas un meurtre satanique.
Oui, vous l'avez dit, il y a ces inscriptions 1 et 0 sur la plante des pieds de Lola, donc effectivement très intriguant. Après, plein de points d'interrogation, mais malheureusement aussi les réponses, hein, la réponse la plus inquiétante, enfin je veux dire la plus redoutée, pardon, c'est un homicide et Lola est décédée. Enfin c'est quand même voilà.
On est d'accord, bien sûr.
Je veux dire après il va falloir remonter, mais on connaît malheureusement des histoires de disparition d'enfants qui vont traîner. Là on sait dès le départ que c'est un homicide, elle est décédée, on a un corps et on remonte assez vite parce qu'il y a beaucoup d'indices et beaucoup de témoignages. Et là on est, c'est une enquête à rebours, si je puis dire. On part de, on a quasiment tout depuis le départ. On a la victime, on a la suspecte, on a à peu près l'enchaînement et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé.
Et elle a subi beaucoup de violences, cette petite fille. Oui, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, parce qu'ils sont sordides, mais effectivement, c'est, encore une fois, ça dépasse un peu l'entendement. On ne comprend pas.
Ouais, on peut juste dire que les qualifications pour lesquelles elle est mise en examen, c'est l'assassinat et c'est accompagné d'actes de torture, de barbarie. Il y a un viol aussi qui est reconnu. Donc voilà, on ne va pas donner de détails, mais les qualifications sont celles-là.
Alors, le lendemain, cette femme, Dabia Benkired, elle a 24 ans à l'époque, elle est algérienne, elle va se retrouver évidemment en garde à vue. On va en parler longuement de cette garde à vue, mais Cindy Hubert, déjà dites-nous, qui est cette femme? On a dit SDF, elle n'a pas vraiment de domicile fixe.
Alors, Dabia Benkired, elle est née en Algérie, et puis elle est venue une première fois en France pour un séjour assez court, et puis elle vient finalement rejoindre sa mère et ses sœurs. Elle a 18 ans, elle vient avec un visa étudiant. Elle voudrait devenir policière ou militaire, mais en fait, elle fume déjà beaucoup de cannabis, jusqu'à 10 joints par jour, ce qui fait qu'elle ne va pas y arriver, elle va passer un CAP en restauration. Elle va vivoter, faire plusieurs jobs, elle va aller vivre à droite à gauche, notamment chez sa sœur. Et puis, il y a la mort de sa mère qui semble être un point de rupture.
Comme un déclencheur, c'est ça?
Et à partir de là, il y a une errance où il commence à y avoir des délires, notamment l'été qui précède le drame. Sa sœur va raconter que parfois elle se réveille la nuit et qu'elle commence à avoir des délires.
C'est ça. Et puis elle est sous OQTF. Alors dites-nous en un mot, parce qu'on en a beaucoup parlé, évidemment ça a fait polémique. Cette femme, elle était menacée d'expulsion, c'est ça?
En fait, elle est arrivée avec un visa étudiant qu'elle n'a jamais renouvelé. Et à l'été qui précède le drame, on la retrouve à l'aéroport, elle est en zone d'embarquement, elle n'a évidemment absolument pas le droit d'être là. C'est à ce moment-là qu'on lui formule cette OQTF, elle doit quitter le territoire, elle a 30 jours, elle ne partira pas. Et donc en réalité, quand on l'arrête, elle n'a pas de papier, elle est en situation illégale en France.
Juste une petite question, Timothée Boutry, on se pose aussi la question, est-ce qu'elle a toute sa tête, hein? Ça va être la grande question aussi, tout de suite.
Ah bah bien sûr, c'est une interrogation majeure, puisque... a priori, et ça se confirme, elle connaissait pas du tout Lola, donc pourquoi s'en prendre à cette jeune fille? Évidemment, une question du mobile. Les circonstances aussi du décès, on les a indiquées, elles sont très particulières, ces inscriptions. Donc voilà, c'est quand même la première question, et les déclarations aussi en garde à vue entretiennent aussi ce flou, ce mystère et ces questions sur son état de santé.
Dabia Benkired est en garde à vue, puis bientôt devant le juge. Mais que va-t-elle raconter ? Samedi 15 octobre 2022, Dabia Benkired est interrogée dans les locaux de la brigade criminelle. 4 autres personnes, 2 hommes chez qui elle a passé la nuit, le chauffeur VTC qui l'a aidé à transporter la malle contenant le corps, mais aussi sa sœur Fria, sont également en garde à vue. La première audition de Dabia Benkired commence peu avant 17h. Elle tient alors des propos fantaisistes ou bien refuse de répondre. Le vendredi du crime, elle raconte qu'elle était chez sa sœur, un studio au 6e étage du 119 de la rue Manin. En fin de matinée, elle est allée traîner sur les Champs-Élysées. Elle indique ne pas connaître Lola. Quatrième audition, elle admet avoir croisé la petite fille. Elle n'avait pas de passe pour entrer dans l'immeuble. Elle a donc vu cette fille arriver qui lui a refusé de lui prêter le sien. Dabia Benkired a insisté. Elle m'a déverrouillé la porte. J'avais mes valises à aller chercher. Je l'ai forcée à monter avec moi dans l'ascenseur. La suspecte explique qu'au 6e, Lola a pris peur. Je l'ai forcée à rentrer chez moi. Je l'ai un peu tapée. Elle raconte avoir conduit la petite fille sous la douche. Elle lui a infligé des violences sexuelles. J'ai abusé un peu, histoire d'avoir mon plaisir et point barre, confie-t-elle. Viennent les coups. Avec un couteau et des ciseaux, elle écrit spontanément sur les pieds 1 et 0 avec du vernis à ongles rouge. Elle ignore pourquoi elle a fait ça. Les policiers décrivent une femme pas du tout bouleversée, qui ne manifeste ni regret, ni émotion. La sœur aînée de Dabia, Frida Benkired, 26 ans, dit avoir travaillé toute la journée de vendredi. Elle est rentrée chez elle, rue Manin, à 22h10. Elle a croisé des policiers devant l'immeuble. Ils recherchaient une petite fille. Fria a découvert le studio en désordre. Dabia, c'est la mauvaise graine de la famille. Elle nous a causé beaucoup de soucis, déclare-t-elle au policier. Fria Benkired précise que depuis le mois de juillet, sa sœur racontait des choses bizarres. Elle avait vendu son âme. Elle se disait envoûtée. Fria avait mis ses délires sur le compte d'une consommation excessive de shit ou d'hallucinogènes. Dimanche 16 octobre, lors de la 5e audition de garde à vue, Dabia Benkired revient sur ses déclarations. « Tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'était un cauchemar que j'ai fait », affirme-t-elle. Elle raconte qu'en fait, elle s'est battue contre Lola qui menaçait de la tuer. Elle ajoute « J'ai dit toute la vérité. J'oserais pas tuer une personne en fait. Je suis pas folle. » J'ai rien à voir avec tout ça. Dabia Benkired est mise en examen pour meurtre de mineur en lien avec un viol et des actes de torture et barbarie. Elle est écrouée à Fresnes. Rachid N, 43 ans, le chauffeur VTC qui était venu la chercher, rue Manin, est mise en examen pour recel de cadavres, mais il est laissé libre. Et la première question qui va bien sûr se poser, et qui d'ailleurs se pose depuis presque les premières minutes de cette affaire, première question après 48 heures de garde à vue est de savoir si Dabia Benkired est apte à être interrogée et peut-être un jour jugée. Est-elle réellement dérangée ou bien tente-t-elle de se faire passer pour folle? Il y a plusieurs explications. En tout cas, les experts et les psys vont arriver aux mêmes conclusions. Quelles sont-elles ces conclusions? Eh bien, on va le voir dans la suite de l'émission. Cindy Hubert, on vous retrouve dans cette heure du crime, journaliste à RTL, spécialiste, police, justice, et vous connaissez bien ce dossier. La garde à vue, elle craque, entre guillemets, à la 4e audition, les aveux. Là, elle donne beaucoup de détails quand même, cette femme.
Elle donne tellement de détails que même les enquêteurs en sont embarrassés. Ils ne savent pas trop bien quoi faire de cette femme. On est sur des enquêteurs de la brigade criminelle, des enquêteurs aguerris.
Chevronnés, bien sûr.
Et qui sont un peu décontenancés face à son attitude. Elle est très précise et en même temps très désinvolte. Puis elle tient des propos inquiétants. Elle parle du diable. Elle s'est battue contre un fantôme. Et elle va dérouler ce qui s'est passé dans ce huis clos qui dure presque 1h30 dans l'appartement. Elle parle du visage de Lola qu'elle a scotché au visage. C'est d'ailleurs comme ça, on le sait, que la petite va mourir. Elle meurt d'asphyxie. Et puis elle va décrire... C'est assez glaçant, en fait, à lire. Elle se prend un café, elle écoute de la musique, puis ensuite, il y a ses coups de couteau, et elle va décrire comme ça pendant toute cette audition, avant de revenir sur ses aveux.
Alors, c'est très étonnant ce que vous racontez, parce qu'il y a à la fois ce mélange de précision, presque technique, avec beaucoup de froideur, presque du cynisme, on a l'impression, et puis à la fois, elle est instable, elle raconte un peu n'importe quoi. Il y a tout ce mélange, c'est très difficile à suivre pour les policiers.
Et puis après, dans la 5e et la 6e audition, elle va dire qu'elle a menti et qu'elle s'est battue contre un fantôme, elle invoque le diable. Alors c'est très compliqué de savoir, mais en même temps, elle donne des détails qu'elle seule peut savoir et qui correspondent aussi aux résultats de l'autopsie. Les coups de couteau, les coups de ciseaux, le vernis rouge, il n'y a qu'elle qui peut savoir
bien
ça.
Sûr.
Et elle le dit avec une froideur déconcertante devant les photos de la petite Lola que lui présentent les enquêteurs.
Oui, bien sûr, puisque ces détails ne sont pas encore sortis. Dans la presse, ça va trop vite, on est déjà à la garde à vue. Et effectivement, il y a des détails qu'elle seule peut connaître. Timothée Boutry, vous êtes journaliste police-justice au Parisien, et vous aussi, vous connaissez parfaitement ce dossier. Et il y a un détail important dans ce qu'elle raconte, cette femme. Elle dit qu'elle s'est disputée avec Lola à propos du pass magnétique d'entrée dans l'immeuble. Mais ça, les parents de Lola vont démentir. Elle va dire qu'elle s'était disputée avec sa mère aussi.
C'est ça, totalement. Elle dit que le matin, elle s'est disputée avec la mère de Lola, qui n'a pas voulu lui donner un passe pour rentrer dans l'immeuble. Ce qu'elle va totalement démentir, la maman de Lola. Elle ne connaît pas cette femme, elle ne s'est jamais disputée avec elle. Le papa de Lola lui-même ne la connaît pas. Donc en fait, ça, c'est une fausse explication, manifestement. En tout cas, elle est corroborée par aucun témoignage des deux principaux concernés. Donc voilà, on peut s'interroger. Est-ce qu'elle a voulu quelque part légitimer, justifier ce passage à l'acte totalement insensé, comme vous l'avez dit? Est-ce qu'elle a voulu se construire une histoire pour tenter d'avoir un espèce de fondement un peu rationnel par rapport à ce qui s'est passé? Peut-être, mais en tout cas, manifestement, ça correspond à rien du tout.
On peut suspecter qu'il y a un début de fabrication, finalement, de l'histoire. Ou en tout cas, l'essai de trouver une voie pour... alléger sa responsabilité, peut-être? Je ne sais pas, hein, c'est une question.
Alors, je ne sais pas si... alléger sa responsabilité, je ne sais pas, mais... offrir un début d'esquisse, c'est redondant, mais une esquisse d'explication. Qu'est-ce qui fait qu'elle aurait pu basculer parce qu'elle avait du ressentiment par rapport à cette famille et qu'elle s'en serait prise à la fille? Bon, C'est manifestement faux, ça va pas très loin. Bon, voilà, ça correspond pas à la réalité.
Cindy Hubert, vous décriviez tout à l'heure ce qu'elle a raconté lors de ce garde à vue. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que c'est épouvantable, tout simplement, il n'y a pas d'autre terme. Les policiers vont dire, et ce sont les policiers là, je ne parle pas des psychiatres, ils vont dire il n'y a pas d'empathie. Il n'y a pas de regret. Ils sont frappés, les policiers, par ça. Ce sont des gens expérimentés, vous l'avez dit.
Il y a une phrase de Dabia Benkired qui raconte tout, en fait. Devant les photos, elle dit « ça ne me fait ni chaud ni froid ».
Elle le dit comme ça.
Voilà, c'est une phrase qu'elle dit. Et c'est évidemment quelque chose qui rend le crime encore plus atroce. C'est-à-dire, pourquoi elle s'en est prise à cette petite fille qu'elle ne connaissait pas ? On est sur un crime gratuit, et c'est ça qui fait toute l'horreur de ce drame.
Alors, un mot sur un petit peu les autres acteurs qui sont satellitaires, j'ai envie de dire, hein, qui sont annexes dans cette histoire. Il y a tout d'abord la sœur, Fria, qui va être mise en cause. Elle va être interrogée, ce qui est bien normal. Elle hébergeait sa sœur. Alors, elle la décrit comme une personne, la mauvaise graine, elle va dire.
C'est quelqu'un qui cause du souci à la famille depuis plusieurs années, voilà.
Et c'est... Elle est un peu toxique, c'est ça ?
Elle est tout le temps en demande, elle a toujours besoin de quelque chose, elle vient que quand elle a besoin de quelque chose, et effectivement, depuis quelques mois, ses soucis, qui relèvent peut-être de la psychiatrie, s'étaient accentués ces derniers mois et commençaient à prendre de l'ampleur. Et d'ailleurs, elle venait sans cesse, sans prévenir, dormir chez sa sœur, lui prendre ses affaires, elle retrouvait sans cesse son appartement sans dessus-dessous. Et quand elle l'appelle, donc Dabia Benkired, quand elle revient dans le 19e arrondissement, appelle sa sœur sent tout de suite qu'il y a un souci. Elle lui dit, cette malle ? Il est un peu plus de 23 heures, elle l'appelle à l'aide, et sa sœur a un pressentiment, elle comprend que quelque chose ne va pas. Alors bien entendu, elle ne se doute pas qu'il y a une petite fille dans cette malle, elle pense peut-être à de la drogue, elle pense à autre chose.
Des
mais
armes, elle va dire, je crois,
de ne pas l'aider. Voilà.
Elle décide de ne pas l'aider.
Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'elle laisse cette malle en plein milieu de la cour et qu'on va la retrouver finalement peu de temps après.
Il faut préciser, je me permets d'intervenir, qu'elle est sortie libre de sa garde à vue sans aucune charge.
C'est ce que j'allais, voilà. j'allais vous, voyez, je vais vous précéder, j'allais vous poser la question. Effectivement, la sœur, il n'y a pas de charge contre elle, hein, etc. Mais c'est ce qui est d'ailleurs étonnant, que la sœur qui était au contact de cette femme n'ait pas vu le danger qu'elle pouvait présenter. C'était un peu compliqué, comme d'ailleurs Timothée Boutry, le chauffeur VTC. Le chauffeur VTC, lui, il vient de bonne foi aider cette femme qu'il connaît.
Lui était mis en examen, donc déjà une différence.
Mais dissimulation de cadavre.
Hein. C'était quand même une différence majeure entre les deux. Bon, et lui, on ne lui reproche pas d'avoir su non plus, mais enfin, d'avoir su qu'il transportait un cadavre. Lui, il le conteste aussi, enfin, il conteste les charges qui sont retenues contre lui, mais c'est différent. Vraiment, la sœur, elle est totalement hors de cause. Ça s'est passé chez elle, donc elle a subi un impact aussi de cette affaire. En plus, elle a été expulsée derrière, alors qu'elle était quand même parfaitement assez qu'elle travaille depuis toujours. Enfin, c'est de l'affaire dans l'affaire. Le chauffeur VTC, lui, voilà, il connaissait Dabia, il est venu, il a transporté ses valises, cette malle, et on lui reproche d'avoir pu au moins se douter de ce qui se passait, quoi.
Les enquêteurs de personnalité, psychologues et psychiatres vont se pencher sur le cas Dabia Benkired.
Un discernement qui n'est ni altéré ni aboli veut dire que Dabia peut être jugée, qu'au moment des faits, elle n'avait pas perdu son libre arbitre. L'expert l'a rencontrée à 3 reprises dans sa cellule de prison de Fresnes. Il l'a décrit comme narcissique, psychopathique, dangereuse.
Dans les jours qui suivent la garde à vue, Dabia Benkired est entendue par une enquêtrice de personnalité. La suspecte raconte peu de choses sur son parcours et sur le fait qu'elle soit en situation irrégulière depuis 4 ans. Frappée depuis le mois de juillet d'une obligation de quitter le territoire, mesure qu'elle n'a pas respectée. Elle évoque une existence instable, faite de petits boulots et de nuits passées, à droite, à gauche. L'enquêtrice note son calme et la trouve même apathique. Une femme qui ne trahit aucune émotion et prend tout avec une philosophie déconcertante, écrit la spécialiste. La sœur de Dabia Benkired, également questionnée, a décrit une maligne à forte personnalité qui obtient toujours ce qu'elle veut. Lundi 28 novembre 2022, un mois après le crime, le psychiatre chargé d'examiner Dabia Benkired indique que celle-ci ne souffre d'aucun trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement. Le médecin dresse un portrait sombre de la suspecte. Sur le plan social, sa dangerosité doit retenir toute l'attention. Le risque de violence est évalué comme très élevé, selon le rapport. La jeune femme est très narcissique. Elle présente une tendance à la manipulation et tente toujours de semer la confusion chez son interlocuteur. Le spécialiste note une tendance pathologique au mensonge, mais aussi aucune empathie, aucun sentiment de culpabilité. 2 ans plus tard, 15 janvier 2024, nouveau rapport. 2 experts confirment l'absence de troubles psychiatriques chez Dabia Benkired. Elle fait mine de ne pas pouvoir s'exprimer sur ses motivations ou donne des réponses courtes, creuses, vides de sens. L'absence d'empathie est à nouveau soulignée. Aucune préoccupation pour la victime et sa famille est-il écrit ? Et dans cette heure du crime, on est avec l'une de nos invitées, c'est Cindy Hubert, journaliste police-justice à RTL. Alors Cindy Hubert, vous connaissez bien effectivement ces histoires de justice, vous savez comment les psys peuvent travailler dans ce genre de dossier, et ils sont souvent très très importants, leur avis est très écouté pour les procès aux assises. J'étais un peu surpris parce qu'il est rare que 2 équipes de psys, finalement, à 2 ans d'intervalle, écrivent quasiment la même chose. On peut superposer les copies.
Vous l'avez compris, on a 2 expertises dans ce dossier. Donc il y a cette première expertise qui a été faite par un seul expert qui va aller la voir 3 fois. Qu'est-ce qu'il dit en réalité ? Il dit que la folie de ce meurtre, elle implique pas nécessairement la folie de son auteur. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui ne souffre pas de maladie psychiatrique, qui a une personnalité qui est compliquée, manipulatrice, dangereuse, mais pour autant, il n'y a pas d'altération, il n'y a pas d'abolition du discernement. Et c'est la même chose que vont dire les 2 autres experts qui vont aussi la voir 3 fois et bien plus tard, alors qu'elle est dans un état mental peut-être encore un peu différent. Elle n'est plus incarcérée en prison, on le verra. Elle est incarcérée dans une autre unité et qui va dire la même chose. Il n'y a pas d'altération, il n'y a pas d'abolition du discernement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'elle a agi en toute conscience et qu'elle va pouvoir être jugée par une cour d'assises.
Mais c'est assez rare quand même, Cindy, qu'on trouve les mêmes explications de psychiatres différents. Et encore une fois, à 2 ans d'intervalle, ça voudrait dire que son mental n'a pas évolué ?
Je ne suis pas sûre que ça soit rare. En tout cas, c'est assez intéressant de voir que les conclusions sont très similaires. Et évidemment, c'est l'avocat qui avait demandé, l'avocat de la défense, qui avait demandé de faire cette contre-expertise.
Bien sûr.
Elle était évidemment fondamentale, on ne peut pas juger quelqu'un qui est fou. Et donc, on avait besoin de cette 2e expertise. Aujourd'hui, plus rien ne s'oppose à un procès.
Ah ben justement, Timothée Boutry, vous êtes journaliste police-justice au journal Le Parisien. Et ce dossier, évidemment, vous le suivez depuis le début. Est-ce que les feux sont au vert aujourd'hui pour une comparution devant une cour d'assises ? Alors, on peut imaginer d'autres expertises, mais...
A priori, il ne devrait pas y en avoir d'autres, de ce que j'ai cru comprendre. Oui, enfin, il y a des... les faits sont de nature criminelle, il n'y a aucun doute. On a une mise en examen qui peut au prou reconnaître sa participation. Enfin, quand bien même elle ne la reconnaîtrait pas, ce n'est pas ça qui empêcherait une mise en accusation devant la cour d'assises. Mais oui, le seul obstacle, c'est évidemment sa responsabilité pénale. Est-ce qu'elle engagée ou pas, et c'est le cas. Et là, on a 2 expertises convergentes. Vous l'avez dit, Cindy l'a dit, et des conclusions similaires. C'est intéressant parce que la dernière expertise, elle reprend aussi, les experts ont examiné son dossier médical, et elle est actuellement en UMD, on va expliquer ce que c'est, mais
oui.
et les conclusions des psychiatres qui la suivent au jour le jour convergent aussi avec ceux des experts mandatés par les magistrats instructeurs, et même au moment de son suivi, le médecin qui l'ont suivi lors de son incarcération à Fresnes, ils ont aussi fait des rapports. Alors c'est pas des expertises judiciaires en tant que telles, mais enfin c'est des rapports médicaux, qui sont versés au dossier, mais qui ont été aussi transmis aux experts, et ils disent la même chose. Donc on a vraiment, tout le monde dit la même chose, pas de pathologie, mais trouble de la personnalité extrêmement sévère.
Il n'y a pas de feu rouge au procès, c'est ça ?
Ah non,
aujourd'hui, il
n'y
en a pas.
Alors, aucun,
si on va être clair là-dessus.
Non, sauf décès de la mise en cause, il n'y a absolument rien qui s'oppose. Enfin, c'est pas. Alors, il y a la présomption d'innocence, hein, je n'en dis pas qu'elle est coupable, mais. Pour une mise en accusation, tout est réuni, oui.
UMD, ça veut dire quoi ?
Alors, c'est unité pour maladie difficile. On est vraiment sur un établissement de santé. C'est pour des patients qui peuvent être dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres, c'était le cas de Dabia Benkired, puisqu'elle s'automutilait, elle se tapait la tête contre les murs. Et donc, c'est une unité qui n'est pas une unité pénitentiaire. Il n'y a pas des surveillants pénitentiaires qui le gardent. C'est au sein d'un hôpital. Et on va prendre soin d'elle. Et c'est quelque chose de temporaire. C'est-à-dire qu'elle peut tout à fait retourner
en prison
classique.
2 ans après les faits, l'enquête touche à sa fin. Épreuve insoutenable pour le papa. Vendredi 16 février 2024, 9h20, Dabia Benkired est conduite à l'immeuble du numéro 119 de la rue Manin. Les portes vitrées du hall d'entrée ont été occultées avec du papier Kraft et toutes les entrées du bâtiment sont bloquées par des CRS. La suspecte est amenée à refaire les gestes de sa rencontre avec Lola à proximité des ascenseurs, puis à reproduire ceux qui ont entraîné la mort de l'adolescente dans le studio du 6e étage, là où elle était hébergée par sa sœur. 5 heures plus tard, Dabia Benkired quitte les lieux sous escorte pour retourner dans sa prison. Son avocat, maître Alexandre Silva, se réjouit que cette opération ait participé à la levée de certaines zones d'ombre. Il assure que sa cliente a pleinement collaboré à la reconstitution. Les parents de Lola n'ont pas été conviés à cette reconstitution bien trop douloureuse pour eux. Après le crime, ils sont revenus vivre dans le Pas-de-Calais, leur région natale. Leur couple a fini par exploser. 1 an après le crime, l'avocate de la famille, maître Clotilde Lepetit, indique que la maman souhaite continuer à faire son deuil en privé pour se réapproprier sa fille qui lui a été arrachée. Sur M6 et RTL, Johan Davier témoigne, lui, que Dabia Benkired a détruit une enfant, mais aussi toute une famille. Je suis en train de survivre. J'attends que la justice fasse son travail, indique-t-il. 1 semaine après la reconstitution, Johan Davier, 49 ans, est retrouvé mort à Foucreuil, près de Béthune, au domicile de sa mère, où il vivait. Et ça, c'est la deuxième victime, finalement, de cette affaire. Le papa, on va en parler dans un instant. Timothée Boutry, un mot tout de suite. Vous êtes journaliste police-justice au journal Le Parisien. Vous suivez cette affaire. Un mot sur cette reconstitution. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Son avocat, Dabia Benkired, il dit qu'elle a pleinement participé à ces reconstitutions. Apparemment, elle n'a pas fait d'obstacle à refaire les gestes. On n'en sait pas beaucoup plus.
On sait que c'était une ambiance très lourde, parce que c'est quand même une affaire qui a marqué vraiment tous les gens qui ont eu à la traiter, les enquêteurs, les gens du quartier.
Le quartier était très choqué.
Choqué. Voilà, c'est une enfant du quartier, elle allait au collège, les parents, ils sont gardiens d'immeuble, par nature, ils connaissent tout le monde. Donc il y a eu une émotion extrêmement forte. Et voilà, on sait que ça s'est déroulé, on ne sait pas vraiment exactement comment ça s'est passé, mais que l'ambiance était particulièrement lourde, mais à la hauteur du crime.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui si elle est toujours dans le déni, mais si elle dit toujours que effectivement c'est peut-être pas elle, mais que c'était un cauchemar?
On est plutôt dans l'idée d'une reconnaissance, sans forcément d'explication très rationnelle, mais on n'est pas vraiment dans le non, on n'est plus dans la thèse du fantôme. Enfin, c'était assez erratique en garde à vue, mais elle a quand même reconnu. Elle est revenue sur ses aveux, c'est pas aussi clair que quelqu'un qui dit non, mais on m'y a mis la pression et en fait tout ce que je dis c'est faux. On n'est pas là-dessus, on est quand même plutôt sur en plus c'est ce que dit son avocat à l'issue de la reconstitution. Elle a refait les gestes, donc elle est quand même dans une démarche de reconnaissance de son implication. Oui.
Timothée Boutry, encore une question. Une reconstitution, ça signifie qu'on arrive au bout d'une affaire en général? C'est comme ça que ça se passe? On fait ça à la fin quand le dossier est sur le point d'être fermé?
Ça dépend un peu. En tout cas, c'est comme une étape très très souvent ordonnée dans une enquête criminelle. Ça permet de fixer les choses, d'être assez clair sur l'enchaînement, les lieux, ce qui s'est passé, où on était, qui aurait pu voir. Bon, là, on n'est pas sur des problématiques de témoignage. Et effectivement, c'est un acte d'enquête. Là, on est sans doute en fin d'instruction. Elle a été entendue, il y a les expertises.
On est au bout de l'histoire, là.
L'histoire
judiciaire, en tout cas.
Il n'y a que 2 mises en examen, donc il n'y a plus beaucoup de mystère. En tout cas, sur l'enquête, quoi. Il n'y en a pas eu au départ, il n'y en a plus beaucoup là maintenant, quoi. On est plutôt sur l'explication, l'audition, et on attend ce qu'elle dira dans la cour d'assises.
Cindy Hubert, vous êtes journaliste police-justice à RTL, et vous aussi, vous connaissez cette affaire, et vous la suivez pour RTL. Alors, il y a ce drame dans le drame, c'est la mort du papa, Johan Davier. Il est mort de chagrin, cet homme?
Son avocate a eu cette formule. Elle a dit qu'il avait la tête et le cœur trop près de l'enfer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis la mort de sa fille, C'était une lente dégringolade, en fait. Et donc, il a fini par mourir d'une crise cardiaque. On peut dire qu'il est mort de chagrin. Il a été enterré près de sa fille dans le Pas-de-Calais. En fait, la famille avait des attaches dans le Pas-de-Calais, près de la Côte d'Opale, où ils ont un mobil-home. Et bah voilà, il ne sera pas là au procès. Il ne pourra pas... pourra pas finir cette histoire.
Alors qu'il paraît, c'est lui peut-être pas le plus solide, mais en tout cas, il s'exprimait, il posait des questions, et puis il a disparu brutalement. Alors on parle souvent de ces drames qui interviennent lors d'une affaire criminelle, et ça arrive souvent dans les familles. La famille de Lola, elle a explosé, c'est ça ?
La famille de Lola a explosé, chacun fait comme il peut avec cette absence, avec son deuil, et... Le procès risque d'être encore une épreuve. Il va y avoir des images compliquées, il va y avoir des déclarations compliquées. Ça va être difficile d'entendre l'accusé décrire les faits et je pense que ça va être des jours difficiles.
C'est une famille qui était choquée, Timothée Boutry, par aussi l'absence d'excuses, j'ai envie de dire. Le mot est faible, hein, mais de reconnaissance du crime ou de compassion, c'est ce que disent tous les experts, pas de compassion de la part de cette femme.
Ouais, pas de Alors, en soi, comment se remettre de ça? Voilà, chacun fait comme il peut, mais enfin, c'est quand même ce qu'on peut imaginer de pire. Après, effectivement, il y a cette ce côté d'incompréhension. Alors, comprendre, c'est pas justifié, mais peut-être qu'on peut se dire, bah, il y a un enchaînement qui fait que on peut avoir un scénario, là, on voit pas. Et c'est ce que disent les experts dans leur conclusion. Ils disent, ça paraît totalement insensé, mais c'est pas nous, c'est pas la médecine qui permettra de donner une explication. Bah, alors, pour l'instant, on n'a pas trouvé non plus d'explication qui tienne la
rationnel,
route, a priori.
Ça.
Quoi. Donc, ça, effectivement, je pense que ça renforce aussi la douleur de cette idée. Mais pourquoi il y a ce deuil? Mais pourquoi avec ces questions insondables et peut-être resteront-elles sans réponse?
Une famille disloquée qui n'a d'autre choix que d'attendre l'épilogue, un possible procès. Samedi 14 octobre 2023, un an après la mort de Lola, un de ses deux frères, Thibaut, lui dédie une lettre publiée par RTL et Le Parisien. « Je t'écris ce mot pour te dire à quel point tu me manques énormément depuis que t'es parti. Je voulais aussi te dire merci et te demander de veiller sur nous. La vie est très longue sans toi. » Dabia Benkired, toujours incarcérée dans une unité pour malades difficiles, attend de savoir si elle sera jugée un jour et quand. Lors d'un rendez-vous avec un psychiatre, elle avait dit « C'est un fantôme qui a tué, sans que je le sache, cette petite. »
Nous avons souvent pensé que ton fort caractère te ferait gravir des montagnes. Notre chagrin est immense.
Malula, ma petite sœur adorée, j'ai même pas pu te dire à quel point je t'aimais. J'ai l'impression qu'on n'a rien pu faire ensemble, tellement que c'est passé vite.
Les voix de la tante, et du frère de Lola lors des obsèques, c'était également un son qui était diffusé sur RTL. Cindy Hubert, si elle est jugée, Dabia Benkired, on se demande dans quel état elle va arriver à ce procès. Parce que vous l'avez dit, elle est dans une unité pour malades difficiles, elle est fatalement traitée psychiatriquement quelque part, c'est pas anodin, donc on a des doutes là, savoir comment elle va s'exprimer. Je ne dis pas qu'elle est démente, elle n'est pas démente d'après les spécialistes, mais on peut se poser les questions.
Oui, qu'est-ce qu'elle va raconter, dans quelle mesure, dans quel détail elle va pouvoir le raconter? C'est toujours singulier ces procès où finalement on a des personnalités comme ça sur le fil psychiatrique. J'ai le souvenir de Fabienne Cabou qui avait mis son bébé sur la plage avec la mer qui montait et qui finalement, comme Dabia Benkered, n'a pas d'explication à son geste, il n'y a pas d'explication rationnelle et parfois la folie inquiète mais elle rassure aussi, elle permet de donner une explication. On n'a pas cette explication de la folie et c'est sûrement ça qui va être compliqué pendant le procès, de devoir être confronté à quelqu'un qui en réalité n'a peut-être pas de raison, ne sait pas pourquoi elle a tué cet enfant.
Il y aura les faits sur la table, évidemment, avec l'enquête policière.
Il y aura les vidéos, il y aura les photos, il y aura les interrogatoires de l'accusé. Ça va être un moment très éprouvant pour la famille.
Timothée Boutry, vous êtes journaliste police-justice au Parisien et vous aussi, vous suivez cette affaire, invité aujourd'hui de l'heure du crime. Est-ce que la famille, vous me l'avez dit un petit peu déjà au cours de cette émission, mais est-ce que la famille doit se préparer aujourd'hui à ne rien savoir, finalement, à ne pas avoir d'explication? C'est très difficile pour une famille d'accepter ça, mais...
Oui, c'est difficile, mais comme on le disait à l'instant, et l'accusée elle-même, c'est elle, pourquoi elle a commis ce geste ? On ne sait pas. Ben, on ne voit pas. On l'a dit, l'histoire du badge refusé, ça ne tient pas la route. Il n'y a pas un début d'élément déclencheur. Voilà, sa personnalité, ça, par contre, il sera beaucoup question de sa personnalité, puisque ça, on connaît son vécu. Elle dit qu'elle a été victime d'un viol quand elle avait 12 ans. Bon, il n'y a pas eu de plainte à l'époque, là, des faits qui seraient déroulés en Algérie. Mais bon, voilà, on va s'intéresser à son parcours, évidemment. Je pense que ses sœurs seront interrogées. Enfin, voilà, on va plus s'interroger à ça, sur son parcours, sur les faits. Vous l'avez dit, malheureusement, ils sont ce qu'ils sont, on les connaît. Et après, est-ce qu'on aura une explication ? Je sais pas, est-ce qu'il y en a une ? Voilà, c'est vraiment toute l'interrogation. Mais c'est vrai qu'elle est sur le fil, c'est le bon terme. Alors, parce que Fabienne Cabou, elle était quand même moins, un comportement moins erratique que peut l'avoir l'accusé du meurtre de Lola, parce que on était sur un peu une autre problématique. Là, il y a quelqu'un qui en détention finalement se tapait contre les murs. Enfin, elle peut être très dérangée, si je puis dire, je mets des guillemets, dans son apparence et dans ce qu'elle va pouvoir dire, ce qui était moins le cas de Fabienne Cabou. On était dans la compréhension, mais pas dans il n'y avait pas la même dangerosité du tout, alors que là, sur Dabia, il y a vraiment des expertises qui sont à dire dangerosité criminologique, dangerosité sociale. Donc on peut s'attendre un peu à tout, mais après elle est conseillée, elle a un avocat qui est très présent, qui s'exprime pas, et c'est aussi tout à son honneur.
Qu'on a invité d'ailleurs, hein,
mais il faut le reconnaître, c'est aussi tout à son honneur, parce que voilà, il est très présent dans l'instruction, il est là pour tous les actes d'enquête, il s'exprime pas dans les médias, et voilà, c'est éminemment respectable. En tout cas, il l'accompagne depuis le départ, il sera présent pour l'accompagner, donc ça c'est quand même aussi très important.
Cindy Hubert, vous connaissez bien ces procès aux assises, les témoins vont être très importants dans cette histoire finalement, parce que il y a le chauffeur VTC qui lui est mis en examen pour dissimulation de cadavre. Il va y avoir la sœur sans doute qui va être citée, sans doute comme témoin, même si elle a été expulsée de France.
Il y aura des témoins de personnalité effectivement pour éclairer le parcours, la vie de l'auteur, et puis il y aura effectivement tous les témoins des faits, ceux qui ont pu croiser sa route dans cette errance qui est quand même longue, qui dure plusieurs heures avec ses deux valises et cette malle. Tous ces gens qui ont pu croiser son chemin jusqu'à ce que la malle soit déposée dans la cour.
Oui, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette heure ? Ça va être effectivement ces heures, ça va être très très important de le savoir au cours de ce procès. Est-ce qu'il y aura un déclic ? Peut-être, on verra bien. Merci beaucoup Cindy Hubert et Timothée Boutry d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, réalisation Nicolas Godet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.